Radio Kapi. Oh, Kapi. Avec Noëlla Luzitu Kabambi.
C'est finalement ce mercredi que devra avoir lieu l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les députés nationaux sont invités à la séance plénière à 11h dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Tous les postes de ce bureau ont des candidatures uniques, à l'exception de celui de rapporteur adjoint. Plus de 150 000 tonnes de maïs risquent de pourrir dans les lieux de stockage à Ingokolo et Ariwara dans le territoire d'Aru en Ituri. Ces tonnes de maïs produites par des agriculteurs, dont des jeunes désœuvrés, pourrissent dans le lieu de stockage, faute notamment des routes pour leur évacuation vers les centres de consommation, alors qu'une certaine famine sévit dans la région. Le président de l'Association des pétroliers du Nord Kivu, Apenoki, est notre invité. Providence Muhiga revient sur l'instabilité du prix des carburants à la pompe depuis le début de cette année. Bonjour à tous. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale fixée enfin pour ce mercredi. Le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement invite donc les députés nationaux à prendre part à la séance plénière à 11h précise dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Il sera question d'installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale après les élections. Notez que pour ces élections, les candidatures sont uniques pour tous les postes, à l'exception de celui des rapporteurs adjoints qui opposera Dominique Munongo et Constant Mutamba, tous de l'opposition. Michel Kifindangoy.
D'après la liste des candidatures actualisée et publiée hier tard dans la nuit par le bureau provisoire, Vital Kamerhe reste le candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale. Il sera secondé par Jean-Claude Chilumbaï de l'UDPS au poste de premier vice-président et Christophe Mbosonko, dit à l'actuel président du bureau d'âge, maintient sa candidature au poste de deuxième vice-président. Le poste de rapporteur n'a aussi qu'une seule candidature, celle de Jacques Joly de la B, regroupement de Samalou Kondé et deuxième force politique au sein de l'Union sacrée après l'UDPS. L'unique poste de l'opposition, celui des rapporteurs adjoints, sera disputé entre Dominique Munongo de Ensemble pour la République et Constant Mutamba de DIPRO. Le poste de questeur revient à l'AFDC de Bahati Lukwebo. Chimène Polipoli en est la candidate unique en remplacement de Serge Bahati. Au poste de questeur adjoint, la candidature de Caroline Bemba du MLC est retirée au profit de celle de Grâce Nehema de AAAP, troisième force politique après l'UDPS et l'AB. Cet élu de Bazouélé vient ainsi représenter la Grande Orientale au bureau de l'Assemblée nationale.
Toujours en ce qui concerne les institutions du pays, près de deux mois après la nomination de Judith Suminwa comme première ministre, le nouveau gouvernement n'est toujours pas installé. Des sources au sein de l'Union sacrée renseignent que les tractations en coulisses tirent en longueur pour se mettre d'accord sur la liste du nouvel exécutif. Le nouveau gouvernement est très attendu face aux multiples défis que traverse le pays, notamment sur le plan sécuritaire dans l'est du pays, ainsi que la situation socio-économique de la population, marquée notamment par la perte du pouvoir d'achat à la suite de la dépréciation progressive de la monnaie nationale. Que pense la population du retard enregistré dans la mise en place du nouveau gouvernement? Blaise Shindani Kambala, Alpha Mpoissa et Elvi Kungé ont recueilli la réaction de la population dans les rues de Kinshasa.
En tant que Congolais, on se pose la question, comment est-ce qu'on est administré? Parce que nous devons être administrés. Comment est-ce que nous sommes gérés? Bon, comment est-ce que le gouvernement s'organise pour payer deux gouvernements à la fois? C'est aux frais de qui? Des trésors publics? Ce sont des dépenses doubles qui doivent être peut-être allouées à d'autres choses, d'autres responsabilités, d'autres projets du gouvernement. Et maintenant là, où est-ce que le gouvernement trouve de l'argent à payer le gouvernement sortant, mais qui n'est pas encore sorti, le gouvernement qui est en place, mais qui est là, qui doit travailler, mais qui ne sait pas encore travailler?
Je trouve la situation pas bonne d'abord, parce que nous sommes dans un pays sous-développé et le fait de dépenser de l'argent sans but, parce que nous sommes en train de gérer deux gouvernements, ça amène encore plus de dépenses dans le pays. Alors que nous avons déjà beaucoup de situations à régler, sans compter de l'Est.
La situation, elle est vraiment critique, ça c'est de un. Nous sommes victimes de caprices de certains chefs de regroupement politique. À mon humble avis, à un moment donné, le chef de l'État doit se débarrasser de certaines choses. Et il doit mettre loin de son autorité ces caprices-là. Et j'irai pour conseiller à nos autorités, à nos frères politiques qui nous gèrent, de savoir que c'est la population qui en pâtisse.
Nous en parlions dans le sommaire. Plus de 150 000 tonnes de maïs produites par des agriculteurs, en majorité des jeunes désœuvrés, risquent de pourrir dans les lieux de stockage à Igbokolo et Ariwara, deux entités du territoire d'Aru, à plus de 230 km au nord de Bunia. Selon le coordonnateur de l'ONG Union pour le projet de développement rural UPDR qui les encadre, cette situation est consécutive au manque de consommateurs, aux difficultés logistiques des routes pour acheminer cette production dans les grands centres commerciaux. Cette organisation sollicite l'accompagnement des autorités pour réduire le contraste. Le maïs risque de pourrir en Ituri alors qu'une certaine famine sévit dans la région. Martial Kizabiamungu.
Des regroupements de jeunes cultivateurs dans les territoires d'Aro disent avoir cultivé environ 650 000 tonnes de maïs depuis le début de l'année 2024. Seulement 500 000 tonnes ont été achetées par des opérateurs économiques venus de l'Ouganda et Soudan du Sud, deux pays voisins. Le reste de production est exposé à la pourriture, faute d'acheteurs. David Wani, coordonnateur de l'ONG Union pour les projets de développement rural qui encadre ces cultivateurs, de aux autorités de faciliter l'acheminement de ces produits au profit même de personnes au faible pouvoir d'achat.
Notre crainte, c'est que maintenant la quantité risque d'être détériorée.
Certains acteurs de développement encouragent ces agriculteurs à suivre l'exemple des jeunes désœuvrés et combattants de la FPIC qui disposent d'une usine de transformation. Lik Malembe plaide pour l'appui de ces initiatives agricoles pour le bien-être de ces jeunes et le développement de cette entité.
De la FPIC produisent du maïs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'acheminer ce maïs là-bas pour les moutes?
Nous n'avons pas réussi à joindre les conseillers en charge de l'agriculture du gouverneur des provinces à ces sujets. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Le programme de développement des 145 territoires initié par le président de la République ne peut produire des résultats escomptés dans sa composante 2 que par un appui financier aux paysans. C'est ce que propose le professeur Morgan Mbeki. Il estime qu'un microfinancement des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs va booster le développement des économies rurales et des chaînes de valeur locales. Professeur Morgan Mbeki intervenait au cours d'une conférence débat hier mardi à Kinshasa. Il est au micro de Murphy Fika.
Le programme des 145 territoires, c'est un programme élogé, c'est un programme ambitieux et puis je vais dire aussi un programme bold. Au lieu juste de donner des entrants, par exemple des outils, des matériels pour les agriculteurs, moi je pense qu'on peut aller au-delà. Pour bien assister les pauvres dans des villages, il faut que toutes les stratégies s'orientent vers l'homme, les pauvres qui sont dans les villages. Qu'est-ce qu'il faut? Au lieu juste de leur donner des entrants, il faut qu'on les éduque aussi à faire quelque chose sur base de leurs avantages comparatifs. Au-delà de tout ça, il faudrait aussi qu'on aille plus loin, on crée des associativités, que ces paysans qui sont dans les villages, les agriculteurs, les éleveurs, qu'on leur donne l'occasion de créer des associations qui vont faire que voilà, ils peuvent mettre des fonds ensemble, ils deviennent indépendants. J'applaudis par exemple la construction des écoles, des centres de santé, des routes, c'est déjà bien. Mais on risque de se trouver devant des éléphants blancs. Mais il faut que ces gens-là soient aussi capables de profiter, de contribuer pour qu'ils deviennent beaucoup plus indépendants et ils sortent aussi du trappe de la pauvreté.
Au Congo central, les travaux de construction de l'école primaire 2 Inera-Mvuanzi au village Nkolo, territoire de Mbanzangungu, sont à l'arrêt depuis le mois de décembre dernier sans qu'aucune explication ne soit donnée. Victor Nzuzimbembe, acteur de développement local, s'en inquiète et interpelle les autorités. Selon lui, pour le moment, tous les trois bâtiments de cet établissement sont inachevés et tous les travailleurs venus de Kinshasa sont rentrés. Pendant ce temps, les élèves de Nkolo étudient dans des conditions très difficiles. La construction de cette école rentre dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Victor Nzuzimbembe est au micro de Nana Plus Riche Mambo.
La construction a commencé en décembre 2022. En principe, les travaux devaient prendre fin en juin 2023, donc pendant 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai 2024. Les travaux ne sont toujours pas achevés. D'ailleurs, ces travaux ont été arrêtés depuis décembre 2023, pendant les élections. Les maçons sont rentrés à Kinshasa. Les bois maçons et tous travaux qui sont restés sur le lieu sont restés impayés depuis plus de 8 mois. Mais cette école, c'est une école d'une importance très capitale. Le paysan en ont vraiment besoin. Parce que dans le milieu où nous sommes, il y a 3 écoles dans une agglomération de plus de 8000 habitants. Donc nous avons des classes surpeuplées avec plus de 120 élèves dans une seule salle de classe. Et donc, on a besoin de cette école pour essayer vraiment de libérer un peu de l'espace et donner l'espoir aux enfants. Les écoles que nous avons, ce sont des écoles conçues vers les années 40, vers les années 50. Des vieilles écoles dont certaines sont vraiment dans un état de délabrement presque total. Alors, l'école ici, 145 territoires, c'est l'espoir de la population. Malheureusement, on a arrêté les travaux, on ne sait pas pourquoi. Sincèrement, nous voulons que l'autorité reprenne les travaux pour restaurer aussi la confiance vis-à-vis des paysans qui se sentent toujours abandonnés.
Parlons à présent de la délégation du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base prise qui est dans l'espace Kassai pour le moment pour une mission de supervision de nouveaux programmes de construction des ouvrages socio-économiques de base dans la région. Le financement du projet est assuré par le groupe de la Banque africaine de développement BAD. Dans la première phase, plusieurs ouvrages ont été construits et équipés dans le Kassai. C'est notamment des écoles, des centres de santé, des routes, des ouvrages d'adduction d'eau et des marchés. Après avoir visité au Kassai central, ces infrastructures gérées par la communauté, le coordonnateur national de prise rappelle aux bénéficiaires la nécessité de leur entretien qui fait défaut. Deon Sunzu est avec François Kadima.
Nous avons réhabilité des écoles ou des écoles qui avaient des numéros qui existaient déjà. C'était des structures en paille, en rameau. Il y a des écoles qu'on a construites à Zapo-Zapo. Nous avons construit à Luandanda, Tambo-Saint-Bernard, Toubouloukou, Mikalaï, bien d'autres sites aussi dans la province. Ça, c'est pour les écoles et en même temps des centres de santé aussi. Lorsque nous avions remis ces ouvrages pimpant neuf aux bénéficiaires et à la province, ces ouvrages ont fonctionné ou continuent à fonctionner. Mais seulement, il faut dire une chose, là, les entretiens de ces ouvrages. À certains endroits, nous avons trouvé que les panneaux solaires n'y étaient presque plus en plein fonctionnement, les batteries qui sont foutues et on attend c'est que le projet prise vienne réfectionner. Non, c'est pas le cas. Nous avions à son temps recruté une firme qui a fait la sensibilisation des bénéficiaires, notamment sur la gestion, la pérennisation de ces ouvrages. Quand je dis que tout marche bien pour nous, c'est que les élèves sont pas dans des pailles, ils sont dans un bâtiment à l'abri des intempéries. Maintenant, c'est des petits réglages, notamment des panneaux solaires, certaines portes. Il fallait juste fixer un clou.
18 jeunes Congolais des différentes provinces bénéficient de la bourse Mandela Washington Fellowship édition 2024. Parmi eux se trouvent des entrepreneurs et des leaders sociaux. Ils se rendront d'ici peu aux États-Unis pour des formations de 6 semaines en leadership. Objectif, renforcer leur capacité en leadership afin d'impacter leur communauté. Suivant le témoignage de Victoire Andema, l'une des sélectionnées venue de Bukavu, elle évolue dans une organisation qui lutte contre la malnutrition infantile dans les communautés rurale de la province du Sud Kivu. Elle est au micro de Grâce Hamzati Masanzi.
Dans nos projets, on a mis en place une production d'une farine qu'on appelle Abana Farine. Et c'est dans ce cadre que nous avons été sélectionnés pour participer à ce programme de Mandela Washington Fellowship. Donc la production de la farine Abana, qui est une farine de bouillie nutritive pour la lutte contre la malnutrition donc, que nous donnons aux enfants souffrant surtout d'une malnutrition modérée et qui arrivent à gagner encore plus de poids et à améliorer leur état de santé après consommation de la farine. On a des résultats palpables et bien visibles qu'on a expérimenté. Bien sûr, c'est un produit qui a été validé. Après suivi donc de ces enfants malnutris, on a eu des très bons résultats. Des enfants qui ont amélioré leur santé et sont passés d'une malnutrition à un état de santé normal après consommation de notre farine de bouillie à Abana.
Et qu'est-ce que nous pouvons attendre de votre participation à ces programmes?
Ah oui, vous pouvez attendre de grandes choses, notamment l'amélioration de notre prise en charge. Nous comptons vraiment apporter un plus au fait dans notre cause et aussi améliorer les résultats et donc impacter plus d'enfants dans cette lutte noble.
Les critères de sélection à la bourse Mandela Washington Fellowship, ce programme annuel du département américain, sont avoir entre 25 et 35 ans d'âge, parler couramment anglais et avoir une activité qui change positivement votre communauté dans n'importe quel domaine, affirment les organisateurs lors d'une conférence de presse organisée hier ici à Kinshasa. En Ituri, plus de 350 détenus incarcérés dans la prison centrale de Mambasa ne sont pas fixés sur leur sort à cause du dysfonctionnement du tribunal de paix de ces territoires, constat fait par des activistes et des droits humains locaux à la suite des missions d'évaluation dans ce centre de détention. Ils déplorent l'insuffisance des juges depuis 9 mois et plaident pour une augmentation de leur nombre en vue de respecter les droits de ces prévenus. Martial Kizabiamungu.
Le tribunal de paix de Mambasa éprouve d'énormes difficultés pour son fonctionnement, selon des activistes de droits humains dans ces territoires. Depuis septembre 2023, aucune audience en matière pénale ne s'est tenue dans cette juridiction qui ne compte qu'un seul juge au lieu de trois, ce qui viole les droits d'une centaine de détenus de la prison centrale de Mambasa. Ces activistes demandent au Conseil supérieur de la magistrature de trouver d'urgence une solution à ces problèmes. L'un des maîtres Jospin Paloukou.
Depuis septembre, les gens sont en détention. On ne connaît pas comment ils seront jugés un jour pour savoir s'ils sont coupables. Nous sommes en train d'attendre, nous avons écrit plusieurs fois au Conseil supérieur de la magistrature, mais sans succès jusque-là. Il y avait d'abord deux juges avant septembre. L'autre a été promis et on est resté avec un seul juge. Et depuis là, vous savez, en matière pénale, il faut au moins trois juges pour qu'on puisse juger une affaire.
Contactez le président de la Cour d'appel de l'Ituri, conscient de la situation, dit avoir déjà fait plusieurs rapports à sa hiérarchie. Il exhorte le justiciable à la patience en attendant une issue à ses problèmes. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Actualité internationale. L'Assemblée nationale vietnamienne a confirmé ce mercredi la nomination du ministre de la Sécurité publique Tô Lâm au poste de président du pays sur proposition du Parti communiste après la démission de son prédécesseur emporté par une vaste purge anti-corruption.
L'invité.
Le président de l'Association des pétroliers du Nord Kivu, Apenoki, est notre invité. Dans une interview accordée à Radio Okapi, cet opérateur économique du secteur pétrolier revient largement sur l'instabilité du prix des carburants à la pompe depuis le début de cette année. Il explique également d'autres charges additionnelles contenues dans la nouvelle nomenclature de prix du carburant. Providence Muhiga s'entretient avec Gabriel Wamenya.
Monsieur Providence Muhiga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le président pétrolier du Nord Kivu. Nous voulons savoir pourquoi les prix du carburant grimpent du jour au jour depuis le début de cette année.
Je ne sais pas si je dois suivre votre logique. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 2850 ou plus, vous n'aurez pas le dollar. Or, même si nous vendons en francs, nous sommes obligés d'aller chercher les devises pour importer le produit. Et dans le texte, il est dit qu'à chaque fois qu'il y a hausse ou baisse de plus de 5% sur le marché international, nous devons saisir le gouvernement national, en l'occurrence le ministre national de l'économie. Et pour la bonne compréhension de tout le monde, pour que le prix change, il y a trois éléments qui interviennent. Les trois éléments, c'est le prix sur le marché international, la fiscalité et le taux de change. Pour ce qui nous concerne, pour le cas présent, c'est le taux de change.
Selon d'autres opérateurs pétroliers, il semble qu'il y a d'autres charges qui ont été augmentées sur la nouvelle nomenclature, notamment la charge qu'on appelle KPS. C'est quoi cette charge-là exactement? Et à qui profite-t-elle?
La charge dont vous parlez, c'est la politique du gouvernement qui avait été décidée dans le Conseil des ministres au mois de décembre 2023. Cette charge dont vous parlez, c'est pour essayer de désenclaver les zones qui sont enclavées en y installant des tanks pour le stockage. Donc ça, c'est une politique gouvernementale pour essayer de récolter les moyens afin d'installer dans les zones enclavées telles que le Maniema, au niveau de la province orientale, essayer d'aller installer des tanks là-bas pour éviter des ruptures de stock. C'est comme ça que par moment vous entendez que à Kisangani, par exemple, le litre, c'est devenu 10 000 francs au lieu de 4 000 francs. Pour éviter cette spéculation, la politique du gouvernement a décidé qu'il fallait y construire des stockages sur place. Et pour qu'il y ait des stockages, et pour y construire, il faut des moyens.
Ici à Goma, plus précisément, beaucoup d'opérateurs pétroliers comme vous, vous stockez vos produits dans vos propres stations. Alors, que vient faire la charge additionnelle CEP Congo?
Moi, ce que je viens de vous dire, la politique du gouvernement a décidé parmi les zones dont je vous ai citées, je ne vous ai pas cité Goma. Je vous ai parlé des zones qui sont enclavées. La charge dont vous parlez, la charge CEP Congo, elle est là, mais nous ne la payons pas. Parce qu'il y a des installations CEP Congo. Si vous voulez continuer, je crois que cette question-là, il faut aller la poser au chef du gouvernement quand il sera là, ou au président de la République, parce que c'est lui qui a présidé cette réunion-là du Conseil des ministres.
Pour éviter des rumeurs, des spéculations, des prix, puisque un citoyen moyen ne peut pas comprendre toutes les analyses et toutes les explications que vous venez de donner là. Quel est le message que vous pouvez adresser aux consommateurs?
Le message que nous pouvons adresser aux consommateurs, c'est lequel? La structure de 2023 nous demandait de vendre à 4000 francs. Celle de 2024 nous autorise à vendre à 4200 francs. Donc la situation, elle est ce qu'elle est. Parce que nous-mêmes, comme opérateurs économiques, nous sommes parmi les victimes de cette hausse. Parce que entre-temps, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Si vous mettiez 10 litres dans votre véhicule, vous ne mettrez plus 10 litres, vous allez en mettre 8. Donc, quelque part, chez moi, il y a aussi un manque à gagner. Ce n'est pas les pétroliers qui contrôlent le taux de change. Mais comme nous, pétroliers, nous n'avons pas ce pouvoir-là de changer le prix, c'est comme ça que nous recourons au gouvernement pour leur dire, voilà, essayez de comprendre, en tout cas, il y a hausse de taux de change, voyons comment on peut s'adapter.
Monsieur Providence Mouiga, je vous remercie.
Et c'est par cet entretien entre le président de l'Association des pétroliers du Nord, Kivu, et Gabriel Wamenya, que prend fin ce journal sur Radio Okapi. Merci de l'avoir suivi.